France Musique.
Musique et moi.
Sylvie Germain.
Priscille Lafitte. France Musique.
Raconte comment c'était. On disait de moi, tiens, il est sorti de la forêt. Non, je ne suis pas sortie, c'est la forêt qui est partie. Jerzy Fitzowski.
Faut-il se couper de la fébrilité du monde pour mieux entendre le souffle de son intériorité, de son chant ? Mon invité ce matin connaît bien cette interrogation, non seulement parce qu'elle vit quotidiennement cet isolement propre aux écrivains, mais parce que son dernier livre aussi, Brève de solitude, roman publié par les éditions Albin Michel, cherche précisément à faire entendre les petites musiques intérieures de différents personnages pendant ce temps si particulier de confinement que nous avons vécu. Bonjour Sylvie Germain.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans Musique et moi ce matin. Nous voici coupés du monde. Ich bin der Welt abhanden gekommen, comme dit ce texte de Friedrich Rückert, l'auteur des Rückert-Lieder de Mahler, chanté ici par Dietrich Fischer-Dieskau, aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Karl Böhm. Est-ce que cette musique de Mahler rend assez justement compte des états intérieurs que vous avez traversés lors de l'écriture de ce livre, Sylvie Germain ?
Oui, mais d'autres, tout dépend aussi des moments. C'est pas une tonalité qui a été celle ni de moi-même en travail d'écriture, ni des personnages mis en scène. Parfois, oui, on peut trouver une musique qui consonne avec un état intérieur. Comme on peut trouver aussi bien une lumière ou au contraire une certaine obscurité ou des tableaux ou des images qui consonnent. Et c'est d'ailleurs tout ça qui forme notre sensibilité. On finit par ne plus savoir qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est second. On intègre les choses, un certain état de parfois de réflexion, un certain état d'émotion vont faire naître ou renaître à la mémoire, vont nous rappeler par exemple un poème, un tableau qu'on a envie soudain de voir comme si on allait avoir un dévoilement du trouble intérieur qu'on a à ce moment-là, ou bien sûr une musique.
Et en quoi est-ce que la citation de Fikowski a sa place ici ? Comment ne résonne-t-elle, cette citation, avec ce lead de Mahler et avec vos pensées ?
Je ne l'ai pas choisi en fonction ni de Mahler, de Bach, Rachmaninoff et les autres que je vous ai indiqués. Vous m'avez proposé de chercher quelques citations et parmi celles-là, vous l'avez retenue, de Fisotsky, qui était donc un poète écrivain polonais, qui a écrit des choses aussi remarquables sur Bruno Schulz. Un immense auteur, je trouve, qui n'a pas la place qu'il mériterait. Et dans sa poésie, il y avait ces quelques vers que j'aime bien par leur simplicité. On disait de moi, il est sorti de la forêt. Non, je ne suis pas sorti, c'est la forêt qui est partie. Et ça, oui, je le trouvais presque à la fois sur un ton presque un petit peu ironique, un peu beaucoup le sentiment que j'éprouve, et je pense que beaucoup de gens en avançant en âge éprouvent par rapport à leur époque. On n'a pas quitté cette société, j'ai pas l'intention de quitter ce monde, mais je suis pas sortie, mais on a l'impression que c'est la forêt qui est partie, voilà, qui s'est éloignée. On est resté dans un petit bout, est-ce que c'est un fourré, une petite clairière, je ne sais pas. Il y a des jours, ça ressemble plutôt au fourré, il y a des jours, c'est un peu une clairière, mais l'impression parfois que la forêt, oui, elle s'est éloignée, et on est un peu, est-ce que c'est du retard ou en marge?
Est-ce que la forêt n'est pas revenue ? Est-ce que ce petit monde n'est pas revenu aussi précisément dernièrement ?
Mais ça migre beaucoup, vous savez, les arbres dans les forêts, les buissons, la végétation, ça n'arrête pas de migrer. Et donc il peut y avoir des nouveaux fourrés, des nouveaux bosquets, des nouvelles clairières qui se forment. Oui, ça se déplace.
Thank you. C'est le choral du Veilleur de Jean-Sébastien Bach, BWV 645, Wahret auf, réveillez-vous. C'est Marie-Claire Alain ici à l'orgue. Sylvie Germain, est-ce que c'est une musique qui porte la marque de l'enfance, ce Bach ?
Oui, si. J'ai l'impression que Bach, c'est une des musiques les plus anciennes pour moi que j'ai pu entendre dans mon existence, certainement dans l'enfance. Et c'est d'une telle beauté et profondeur que ça, d'emblée, je crois, ça s'inscrit justement en profondeur dans la mémoire, dans la sensibilité. On a l'impression que Bach, il a toujours été là, comme si on peut après découvrir et aimer intensément d'autres musiciens, bien sûr d'autres compositeurs, mais ni souvent il y a Bach et les autres, comme il y a en peinture. Pourtant, j'aime tellement, tellement de peintres de genres différents, mais je mettrais Rembrandt. Et puis, après, il y a tout un ensemble. En poésie, je mettrais Rilke. Et puis, voilà, c'est un peu dans tous les domaines. Après, c'est une question de goût, hein, de sensibilité. Mais Bach, oui, c'est celui qui reste... pour moi, une référence absolue, oui.
Alors, dans quelles circonstances est-ce qu'on écoutait Bach chez vous ?
J'aurais du mal à vous dire précisément. On n'écoutait pas beaucoup de musique, déjà. Je ne suis pas du tout d'une partie d'une famille de musiciens. Je n'ai pas reçu de culture musicale. Je ne me souviens pas qu'on écoutait beaucoup de musique chez moi. Mais dans les quelques disques qu'il y avait, il y avait du Bach. Et même du fond de mon inconnaissance totale, j'ai dû être touchée, profondément touchée par cette musique dès que je l'ai entendue.
Du Bach à l'orgue ?
Je crois qu'il y avait des disques d'orgue, mais pas seulement.
Oui, parce qu'on va entendre un peu plus tard aussi
autre chose,
du Bach vocal. Est-ce que ces musiques de l'enfance reviennent facilement à la surface de votre mémoire ? Est-ce que vous allez chercher dans ces souvenirs-là ?
Non, ça serait plutôt des musiques que j'ai découvertes plus tard, plus vers l'adolescence. Et après, quand on est touché par... Vous savez, c'est comme avec les auteurs ou les peintres, on est touché par une œuvre. Du coup, on va chercher davantage, on va creuser. Et après, j'avoue que je ne sais plus trop par quoi ça a commencé. Voilà, c'est...
Peut-être par ceci ? L'Ave Maria extrait des Vêpres de Rachmaninoff, ici par le chœur Accentus, et le chœur de chambre Eric Erickson, dirigé par Laurence Equilbet. Où sommes-nous dans votre mémoire à vous, Sylvie Germain?
Il y a surtout que c'est difficile de prendre la parole après une musique aussi belle. Ça, j'ai dû le découvrir. Je vous dis, je ne me rends pas compte, je ne peux pas dater comme ça, c'est déjà assez ancien. Et j'avais trouvé l'ensemble de ces Vêpres absolument splendides. Et il y a plusieurs passages qui me touchent particulièrement. Et celui-là, je le connaissais dans une autre version avec une voix d'homme et une orchestration assez différente. Et ce qui me frappait, j'avais l'impression que c'était comme une plainte lumineuse. Il y avait quelque chose dans cette voix qui trace, vous savez, comme une sorte de petit rayon de lumière dans une pièce ou dans un lieu ombragé et qui va un peu en tremblant presque, mais se frayer un passage, une sorte de signature. Et puis après, il y a cette espèce de reprise par l'ensemble du chœur. Et c'est difficile de parler de la musique. Je peux plus facilement parler de la peinture, du visuel. Mais la musique, elle vous met dans un état, justement, d'émotion, d'émoi. Un très joli mot, d'ailleurs, que le mot émoi. Dans un tel état que ça dispense de la parole, pour une fois. Voilà quelque chose qui nous met à notre place. C'est-à-dire, on a envie de, vous savez, comme on dit, après vous. Quand on ouvre une porte et on laisse passer quelqu'un. Et là, on a envie de dire avec le langage, on se met un peu en retrait. Et après vous, laissons passer la musique.
Nelly Tuija, Nasi. Ай, да за мною. si yo me daro male y ni falso. Da caic me naceava, da cari mâna pura stava da imiri. Metu de la tava, tu miri la ci mărava mă.
Voix extraordinaire d'une chanteuse tzigane très peu connue en France, Sonia Timofeva, qui est née en 1944. Elle a été une des stars, je crois, du théâtre Rome à Moscou, au lieu de la culture tzigane à Moscou. Elle reçoit un prix honorifique en 1991 de la part du pouvoir soviétique. Comment vous l'avez découverte, Sylvie Germain ?
Je ne sais plus, parce que j'aime énormément la musique tzigane, musique seule ou musique chant. Et là, vraiment, quand on entend ces deux voix, vous voyez, j'en reviens à la citation de Fitsovsky au début. Elle vous ferait pousser une forêt, elle, toute seule. Voilà, il y a des voix comme ça, sont capables de vous mettre une forêt en mouvement ou de faire pousser une forêt. Et d'emblée, il y a plus autant les oiseaux que les loups, quoi. C'est une voix fantastique.
Qu'est-ce que vous recherchez dans une voix? Quels sont vos critères?
Ah, je ne cherche pas et je n'ai pas de critères. J'aime les surprises plutôt. Mm-hmm. Ce que je vais retenir et qui me donnera envie d'aller chercher plus loin, c'est ce qui m'a surprise, que ce soit en peinture, en littérature ou là en musique. Si quelque chose me met à l'arrêt, m'intrigue vraiment, c'est bon signe. C'est que ça. Alors parfois, en allant plus un petit peu enquêter, en réécoutant, bah finalement non, c'était pas ça. Et parfois, au contraire, oui, ça décuple le plaisir. Bon, la musique tzigane, pour revenir à elle, mais également la musique gitane, bon, depuis l'enfance, quand j'en entendais, on en entend toujours à un moment ou à un autre, la radio, m'a toujours, alors là, vraiment touché au plus vif. C'est tellement charnel. C'est tellement vif. On se pose pas de questions, j'ai pas de discours à tenir là-dessus. C'est une musique qui vous donne effectivement envie de danser, envie de... Ça passe par le corps et ça étreint le corps. Ça c'est de l'émoi charnel.
Vous savez pourquoi vous vous êtes intéressé à cette culture-ci ?
Non, mais je cherche pas moi vraiment les pourquoi de mes passions. Parfois, il aurait mieux valu dans certains types de passions chercher les pourquoi, ça aurait évité des dérives.
Alors, dans quelles circonstances vous arrivez à identifier ?
Non, je sais, ça doit correspondre, voilà, à une part de ma personnalité, ma sensibilité. Je sais pas. Il y a des choses qui ne me touchent pas, qui sont, je dois reconnaître objectivement, très belle, très tout ce que vous voudrez, qui touche beaucoup d'autres personnes, et moi je reste de marbre, ça ne me touche pas. Il y en a même qui m'ennuient prodigieusement, même si on me dit c'est un chef-d'œuvre. Et puis il y a des choses qui me bouleversent ou qui me travaillent.
Il y a des coïncidences russes quand même dans vos choix musicaux de ce matin. On va entendre Shostakovitch à l'instant. Il y a une âme russe qui vous travaille.
Ben peut-être à mon insu. Thank you.
Quelle ironie grinçante dans cette partition, dans ce huitième quatuor à cordes, particulièrement dans cet allegretto, ici par le quatuor Brodine. Une partition que Shostakovich avait prévue comme son testament musical. On perçoit le jeu, l'amusement aussi entre les membres du quatuor. À quoi est-ce que vous êtes attentive, vous aussi, Germain, quand vous écoutez?
À toutes les contradictions, à la complexité de cette œuvre, à la génialité de cette œuvre. Il y a à la fois, je dirais pas de l'humour, non, mais de l'ironie, une ironie tellement grinçante, du désespoir, de la colère. C'est aussi un cri de colère, et c'est pas pour rien qu'il avait écrit dans une lettre. En fait, c'était effectivement son testament et qu'il aimerait que ça soit joué à sa mort. Et là, j'entends aussi la colère, j'entends aussi des cris, j'entends de la révolte. Du coup, je reviens encore à la forêt. Je crois qu'on va mettre la forêt à toutes les sauces, finalement, à toutes les sauces musicales. La forêt qui danse, la forêt qui presque s'incarne charnellement, comme avec la voix de la tzigane. Et là, vraiment, c'est plutôt la forêt qui brûle. En l'écoutant, puisque j'étais restée sur la métaphore de la forêt, on a l'impression de quelque chose qui se calcine. Et vous savez, ces petites notes qui se reprennent comme ça, tac, tac, comme si elles fuyaient. Quoi. Je pensais, vous savez, quand il y a des feux, à ces petits éclats de braise qui pétillent, qui s'en vont comme ça en sorte de jet. C'est ça, voilà. C'est du feu, cette musique.
Est-ce que vous avez déjà écrit sur ou pour une musique?
Non, je serais incapable. J'ai écrit, alors que j'ai aucune formation non plus en peinture, j'ai pas fait d'études d'histoire de l'art, mais il y a quelque chose, peut-être en apparence, c'est peut-être faux, mais de plus tout de suite narratif, même une peinture abstraite, par exemple Rothko m'éblouit, c'est de la peinture abstraite, ça provoque plus de narratif. La musique, non, c'est que, je vous dis, elle vous laisse un seuil, et l'écrivain va dire, après vous. Et moi, je reste sur le seuil. Et
donc, vous n'écrivez pas en musique, par exemple?
Ah non, jamais. Jamais. Jamais, jamais.
Parce que c'est un silence.
Ah bah oui, parce que la musique, non, mais ça serait même, je trouve, injurieux à l'égard de la musique, de la mettre en fond sonore. Attendez, vous pouvez pas être de front dans deux sortes d'écoute passionnelle. Si on n'écoute pas la musique pleinement, c'est un fond sonore. Mais j'ai du mal à mettre du Bach, du Mahler, Shostakovich ou autre, ou du Grégorien ou du Tzigane en fond sonore. Non,
c'est-à-dire que vous l'écoutez sérieusement?
Bah, je l'écoute. Et quand j'écris, eh ben, on écoute un mélange de silence intérieur, enfin, de silence qui est complètement, justement, parasité de mots, d'images qui cherchent à se former, à se coaguler.
C'est tout un travail. Et de son aussi? Est-ce que le,
y a oui, des parasites sonores? Oui, les mots sont aussi des sons. Il y a aussi une sonorité. Il y a un rythme. Il y a un rythme qui vient dans l'écriture. C'est pas pour rien que Flaubert parlait de son Gueuloir. Je veux dire, il y a un besoin, même avec la prose, on sent intérieurement, sans aller le rechercher exprès, ça serait d'ailleurs absurde, mais laisser les choses monter, mûrir, et puis d'un coup, parfois, il faut être disponible, parce que d'un coup, ça se déclenche, ça s'ouvre, et après, sentir peser presque le pas le poids des mots au sens où on l'entend habituellement, mais presque le poids des phrases, le rythme, et c'est pour ça, vous voyez, ces deux attentions, elles peuvent se nourrir l'une l'autre, mais pas en même temps. Alors, ceci dit, il y a des gens, il y a des écrivains qui se nourrissent de musique et qui écrivent avec de la musique autour d'eux comme un stimulant. Oui, par exemple Shostakovich, ce morceau, je pourrais... Mais non, je vais essayer d'écrire le...
Elle peut aussi vous rester en mémoire et...
Mais c'est plutôt ça, voilà, ça va être plutôt ça. Elle reste en mémoire, elle va être
animée. Elle devient une musique intérieure.
Elle devient une musique intérieure, elle va être animée par un moment d'écriture où vous êtes qui... Soudain, oui, ça vous rappelle Shostakovich. Et éventuellement, j'irai l'écouter après, mais pas pendant. Parce que de toute façon, je ne ferai pas le poids.
Cantus in Memoriam Benjamin Britten, le chant en mémoire de Benjamin Britten, d'Arvo Pärt. Parvo Järvi est à la tête de l'Orchestre Symphonique d'État d'Estonie. Sylvie Germain est l'invitée de Musique et moi ce matin. J'imagine que vous recherchez une forme de spiritualité dans l'œuvre d'Arvo Pärt. C'est ce chemin-là qui vous intéresse.
Vous voyez, on est passé de Shostakovich, où je ne parlerai pas spécialement de spiritualité, à Arvo Pärt. C'est pas que je recherche a priori quelque chose dans une œuvre, en l'occurrence musicale. Il faut que cette œuvre me touche. Et il y a certaines œuvres d'Arvo Pärt que je trouve magnifiques, surtout les fameux tintinnabulés, avec ces petites cloches qu'on entend. C'est lui aussi, ces notes comme ça qui s'égrènent. Et je trouve ça à la fois très beau et étrange de passer de Shostakovich, un de ses morceaux les plus presque fous, quoi. C'est comme un tourbillon, à Arvo Pärt qui est tout en déploiement. C'est pas en explosion comme Shostakovich, c'est en lent déploiement. La musique s'épanche. Et là, on en revient à la forêt. C'est plutôt forêt sous la neige. Forêt sous la neige et grande plaine sous la neige, avec toutes les nuances là, pour le coup, du blanc, du gris, d'autres types de lumière, alors qu'avant on est dans toutes les nuances de noir, parce qu'on peut trouver des dizaines et des dizaines de nuances dans le noir. Les peintres nous l'apprennent bien, n'est-ce pas? Et dans le blanc, c'est pareil. Voilà, je trouve que c'est...
Ce sont des palettes qui se répondent entre
deux extrêmes. Deux extrêmes. Ouais. Des couleurs.
Arvo Pärt qui avait écrit d'ailleurs cette partition en mémoire de Benjamin Britten, oui. Qu'il avait regretté de ne pas avoir rencontré en fait.
Oui, il y a une rencontre ratée, il admirait Britten et j'avais pensé choisir peut-être quelque chose de Britten, puis je me suis dit non, allez, en choisissant ce morceau-là, ça fait mention de Benjamin Britten et en même temps ça ne vaut pas. Voilà.
Est-ce que vous avez déjà écrit des textes pour vous rapprocher, pour rencontrer quelqu'un que vous auriez aimé connaître? Il n'y a pas de texte.
Mais peut-être que quand on écrit, et plus ou moins consciemment, on écrit à la fois pour, comme je dis toujours, c'est pas pour soi, mais pour la pluralité qui est en soi, toute cette polyphonie qu'on porte, et dans cette polyphonie, mais il y a beaucoup de voix d'autres, et peut-être parfois sans même en avoir conscience, on écrit en pensant à tel ou tel artiste, pas seulement écrivain, d'autres artistes, manière de leur rendre hommage, pourquoi j'aime tellement écrire parfois sur la peinture. C'est une manière d'essayer d'instaurer un dialogue bien sûr totalement imaginaire, mais avec des œuvres qu'on aime, et c'est peut-être simplement un petit signe de gratitude à l'égard d'artistes dont les œuvres nous apporte pas seulement une sorte de bonheur, parce que ce bonheur peut être trouble, hein, il peut être presque douloureux parfois. La beauté fait mal, oui, la beauté peut être convulsive et faire mal, et c'est très étrange. Et écrire est aussi peut-être une façon de à la fois tenir à distance la partie douloureuse que ça peut avoir, ou voilà.
Glory, oh, glory.
Chœur des moines de Chevetogne en Belgique, dirigé par Maxime Jiménez. Dans les matines du samedi matin, c'est la vénération du tombeau.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
L'écrivaine Sylvie Germain est l'invitée de Musique et moi ce matin. Vous êtes non pas une familière peut-être de l'abbaye de Chevetogne près de Namur.
Malheureusement non.
Non, mais qui vous a introduit à ce chant-ci ?
Alors, cet office-là. Je ne saurais pas vous dire, je connais cette musique depuis longtemps, j'ai eu beaucoup de problèmes pour, je crois que c'est très difficile de retrouver maintenant le CD, et je trouve, j'aime énormément déjà ces musiques de mise au tombeau, musique orthodoxe, et là, ce passage, c'est le dernier chant de l'ensemble, il est particulièrement, je trouve même pas un adjectif qui soit accordé à la, alors là, la puissance d'émotion que ça dégage, c'est peut-être parce que dans le titre, il y a mise au tombeau et mirophore, ceux qui portent la mire, et c'est un chant, cette voix, je trouve, c'est comme une coulée, justement, on a l'impression d'un mélange d'or fondu, de myrrhe, d'ambre, de, vous voyez, je la vois en couleur. Moi, je l'entends en couleur, ce chant. Hein. Je l'entends que dans des couleurs ambrées, avec toutes les nuances des couleurs or, ambré, pouvant aller jusqu'à des bruns profonds. Vraiment, pour moi, c'est une coulée de couleurs comme ça, qui... C'est surtout d'une beauté, enfin, cette voix qui est à la fois une grande puissance et une puissance contenue. Et qui va et qui, comme vous voyez, qui trace un sillon, qui rentre comme ça dans la terre, qui ouvre quelque chose, cette coulée d'ambre, voilà.
Est-ce que vous réservez cette écoute particulièrement pour Pâques, par exemple ?
Non, mais je la voudrais, non, pas spécialement, mais j'aimerais beaucoup, je le dis déjà depuis longtemps, que ben, moi je ne l'entendrai plus, mais le jour de mon enterrement, c'est la musique que j'aimerais qu'il soit jouée. Enfin, jouée, je ne pourrais pas faire venir les moines de Cheftogne.
Peut-être, ils entendent ce message. D'ailleurs, vous allez plutôt au concert, vous allez dans des habits pour entendre de la musique, vous l'écoutez par disque chez vous ?
Plutôt par, ouais. Par disque, oui, plutôt chez moi, non, j'ai pas...
Vous ne faites pas des pèlerinages musicaux ?
Non, je vais beaucoup trop rarement à des concerts, j'avoue beaucoup trop rarement. Et pourtant, je dois reconnaître que les rares fois où je vais assister à un concert, c'est là qu'on découvre vraiment la musique. Et c'est d'ailleurs pendant des concerts que j'ai pu apprécier autrement que en écoutant à la radio ou quelqu'un m'avait mis un disque ou un CD des musiques, on va dire beaucoup plus contemporaines. J'avais du mal quand vous n'avez pas de formation de vraie culture musicale et aucune formation musicale, c'est pas évident. Hein, ça touche pas justement l'émotion tout de suite à certains types de musique. Et quand on assiste, même quelqu'un comme moi qui n'a pas cette culture assiste à un concert, c'est plus du tout pareil. Ça vous parle, je sais pas, quelque chose se libère, commence à s'articuler du fait d'être là et de voir les musiciens.
Peut-être la concentration aussi est différente.
Certainement.
Oui, corps est disposé à entendre des musiques lorsqu'il se trouve dans une salle et n'a rien d'autre à faire.
Tout à fait.
C'est la mise en musique par Handel d'un texte des psaumes, le psaume 110, Dixit Dominus. C'est un chant qui dit « Au torrent sur la route, il boit et relève ainsi la tête ». Ici, Jordi Savall à la tête du Concert des Nations, la Capella Real de Catalogne, Marta Matteu, soprano, et Anna Bayodi-Hirt, également soprano. Est-ce que, là encore, la musique permet au texte de prendre une nouvelle dimension? Est-ce que vous écoutez d'ailleurs le texte? Est-ce que vous prêtez attention à la signification?
Au début, pas spécialement, et quand une musique requiert vraiment mon attention, oui, j'aime bien aller voir le...
Là, trouver, en l'occurrence
trouver le texte, oui. Là, dans le Dixit Dominus, c'est des textes repris entre les évangiles, les psaumes, version en latin, et c'est magnifique. Après, une fois qu'on a le texte, c'est là, par exemple, c'est deux lignes. Mais de ces deux lignes, ils peuvent faire pendant 10 minutes, voire ça pourrait être pendant 1 heure, une manière d'étirer, je sais pas, c'est assez extraordinaire ce qui se passe. Ils font avec chaque presque syllabe et travailler de telle façon, on lui insuffle une telle puissant justement de souffle, de musicalité, que ces mots se détachent de leur sens, hein, et ce n'est pas important. Le sens se recrée complètement autrement, par l'émotion justement, et il se dégage du mot comme signifiant pur. C'est autre chose. Le mot devient son à l'état pur, mais un son tellement modelé, tellement repris, un seul mot peut être chanté, dilaté, voilà, c'est de l'ordre de la dilatation pendant des minutes presque.
Mais du coup, cette dilatation permet d'autres significations.
Mais tout à fait, c'est comme si ça créait, ça reconfigurait du sens autrement, presque à côté du langage tel qu'il est au départ. C'est ça qui crée. Et bien sûr, ça reflue aussi sur la lecture du texte. Après, on va plus lire un même texte, un poème qui a été mis en chant ou un psaume. Si on revient ensuite après l'émotion d'un chant qui en a dilaté les mots, et on revient aux mots, et ben ils ont pris une saveur nouvelle, bien sûr.
Est-ce que parfois vos propres textes, vous cherchez à en dilater aussi les mots et les sens?
Non, ils se dilatent déjà assez. J'ai déjà tendance, peut-être un peu trop, à dilater. Hélas, pas musicalement. Et je serais bien incapable de chanter ou de mettre en chant quoi que ce soit. Là, au contraire, vu mon incapacité à chanter, ça serait un désastre.
Non. Est-ce que justement l'écriture romanesque ne permet pas de dilater des situations?
Si, autrement certainement que la poésie, où c'est des dilatations très très particulières et qui doivent être en même temps dilatation et brève, sinon ça pourrait... Alors que le roman, c'est ça qui est fantastique aussi dans l'espace du roman, c'est qu'on peut y mêler des genres très différents et on peut se permettre, voilà, c'est soit parfois au contraire pas restrictions, mais des rétrécissements, vous voyez, des épurations. Et puis, par moment, on peut se permettre le luxe d'une dilatation, oui, d'un véritable épanchement du langage et des images.
évidemment pour la voix de Kathleen Ferrier que vous vouliez entendre cette passion selon sa mature Barmedich, cette aire de contralto. Kathleen Ferrier qui est accompagnée de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigée par Herbert von Karajan. Est-ce qu'il y a aussi des voix qui vous habitent longuement et qui peuvent habiter aussi vos romans?
Celle de Kathleen Ferrier fait partie des voix. Oui, je reviens toujours quand on me demande des interprètes que vous aimez. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Mais je finis toujours par revenir vers Kathleen Ferrier. Il y a ce très beau poème qui est connu de Yves Bonnefoy en hommage à la voix de Kathleen Ferrier. Malheureusement, j'aurais dû le noter pour pouvoir le lire. Il parle de cette voix qui chante aux confins de la brume et de l'eau, d'une voix grise. Et ça me plaît beaucoup qu'il ait justement parlé de cette tonalité de gris. Le gris n'est pas une couleur morne. Il y a un nuancier immense dans la couleur, enfin dans chaque couleur, mais dans le gris, il y a vraiment beaucoup de nuances. Et c'est vrai que c'est une voix, on a l'impression qu'elle module comme ça tout un nuancier de gris, du blanc jusqu'au gris anthracite, en passant par des, je sais pas, des gris argentés, c'est une voix qui est à la fois, qui enveloppe, qui est à la fois sensuelle, mais retenue, comme si on pouvait mettre toujours des, vous voyez le mot chasteté, sensualité, qui coopère peut-être, c'est lié à cette ambiguïté de ce type de voix, justement, de contralto, comme il y a cette étrange singularité et magnificence des voix
de
contre-ténor.
J'avais souvent
hésité, voilà, ou un contre-ténor ou une contralto, c'est des voix splendides.
Mais est-ce que vos personnages chantent? J'avais noté dans Magnus qu'il y a un de vos personnages au tout début du roman qui chante du Schubert.
Qui chante des lieds de Schubert, oui. Et qui se trahit à la fin. Parce que c'est un ancien nazi qui s'est caché et tout. On peut faire de la chirurgie esthétique, on peut changer beaucoup de choses, on peut se mettre des perruques, on peut se mettre des choses sur les yeux pour changer la couleur. Mais la voix en tant que chant, je pense, c'est très difficile à changer comme ça. Et il est reconnu par sa voix. Il chante très bien. Et là aussi, ce paradoxe des salauds finis, des gens qui peuvent faire preuve d'une totale cruauté en toute indifférence de ce qu'ils font, peuvent être très émus. Ça, c'est connu, c'est un grand classique, on en a beaucoup parlé, du fait que certains nazis étaient capables, après des journées entières de torture, d'ignominie commise, de pleurer en écoutant de la musique, oui, surtout du Wagner ou même du Bach. Pauvre Bach. Et donc voilà, c'est ce personnage, oui, il chante très bien les leaders de Schubert. C'est oui, parfois les personnages où jouent de la musique, où il y a allusion à une musique, où on écoute, parce que ça fait partie de nos vies. Donc ça fait partie aussi dans la description d'un personnage. Ça peut parfois aider ou correspondre à un moment d'action ou d'un personnage dans un roman.
Dans Brève de solitude, il y a un personnage qui écoute le quintet de Schumann. On l'écoute ensemble, vous allez nous dire ce que ça dit de ce personnage. Thank you. La personne qui écoute ce quintet de Schumann dans votre dernier roman, Brève de solitude, aimerait aussi retenir le chant des oiseaux, j'ai noté. Mais elle n'arrive pas à se résoudre à mettre un oiseau en cage. Elle écoute donc ce quintet de Schumann. Je ne sais pas si le lien est à faire entre le chant des oiseaux et ce quintet de Schumann. Mais pourquoi vous avez choisi ce morceau-là, qu'elle puisse écouter dans ces moments d'attente, de solitude ?
C'est une musique, alors là, ça remonte à des années où j'avais dû découvrir ce morceau de Schumann. Et à chaque fois que je l'entends, je sais pas, ça provoque un état à la fois de mélancolie, mais pas une mélancolie triste, si vous voyez. La mélancolie, ça peut être, vous voyez, teintée comme tout à l'heure, je parlais d'une voix qui était comme une plainte lumineuse. Là aussi, il y a des mélancolies avec beaucoup de nuances. Et c'est une musique qui mène en différents états, voilà. Et j'imaginais pour ce personnage, cette musique pouvait lui convenir dans le moment où elle était. Mais on projette sur les personnages, bien sûr, ses goûts ou ses dégoûts ou ses répulsions. Et c'est ça qui est bien, c'est là où on se fait aussi très plaisir. Alors du coup, après, repensant à ce passage, je suis allée bien sûr le réécouter pour voir si ça convenait, si ça me... Et quant aux oiseaux, bien sûr, s'il y a un son au monde parmi les plus beaux qui soient, ce sont les chants d'oiseaux et le bruit du vent dans les arbres. L'idée de mettre un oiseau en cage est totalement insupportable. Donc, on est obligé de se priver des chants d'oiseaux personnels dont on pourrait disposer comme ça. Non, pas au prix de la liberté d'un oiseau.
Alors on revient à la question de départ de cette émission qui partait de ce roman Brève de solitude et on s'interrogeait sur notre rapport à la musique. Est-ce qu'il a changé pendant ce temps de confinement forcé ? Est-ce que pour vous, ça vous a fait découvrir ou entendre la musique autrement ?
Non, pas spécialement. J'espère que pour beaucoup de gens, ils auront écouté peut-être davantage de musique, mais ça n'a pas changé grand-chose à ma manière de vivre. D'ailleurs, j'ai entendu plusieurs fois des écrivains le dire, on en a été presque gênés. On fait pas partie des gens qui ont été le plus... dont la vie a été la plus bouleversée par ça. Au contraire, on a été mis à l'arrêt, en un sens. Et pendant 2 mois, plus bouger. Hein, tous les engagements, tous les déplacements étaient annulés. Et du coup, il m'était pas arrivé depuis longtemps de disposer d'un temps libre comme ça, assez long. Et ben, j'ai organisé mes journées comme je le fais quand je suis chez moi, sans être en déplacement, sans obligation particulière. Accorder un peu plus d'attention au jardin. À l'époque, maintenant j'ai quitté la maison, mais j'avais un jardin. Et du coup, non, j'avais le même rythme. Donc j'ai pas écouté différemment les choses ou organisé différemment finalement les journées. Non, j'ai écrit au contraire. J'ai écrit quasiment chaque jour pendant des heures, ce qui fait que j'ai écrit ces brèves de solitude dans un temps bref, totalement lié. C'était une première fois que j'avais cette expérience, je pense peut-être la dernière aussi, dans un temps bref comme ça. D'habitude, ça s'étale sur des mois, tout simplement parce que je dois abandonner l'écriture pendant les moments où je me déplace. Et là, non, il y a eu
un temps de concentration.
Temps de concentration. Donc, peut-être que pour des gens, ça a permis des découvertes, mais pas particulièrement là, non.
Est-ce que vous en avez profité pour écouter la voix de Vladimir Vysotsky qu'on va écouter à l'instant ?
Je l'écoute, de temps en temps, il y a Tom Waits dont j'adore la voix. J'avais proposé là ou Tom Waits ou Vysotsky, c'est-à-dire des voix complètement éraillées et folles, quoi. Ah oui, de temps en temps, je me fais plaisir, je vais me chercher Tom Waits ou Vysotsky.
Рвусь из всех сухожилий. Но сегодня, опять как вчера, обложили меня, обложили. Гонят весело на номера. И заели, хлопочут двустволки. Там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.
не на равных играют с волками. Егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки. Мы волчата сосали волчицу, и сосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы дорвоты, кровь на снегу и пятна красные флажком. Наши ноги и челюсти быстры, почему же вожак дай ответ? Мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен иначе. Вот кончается время мое, тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы тервоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.
Avec la voix de Vladimir Vysotsky que nous refermons cette émission avec panache.
Ah, avec Vysotsky, oui, c'est plus que du panache.
Un grand merci Sylvie Germain d'être venue au micro de Musique et moi ce matin. Un grand merci à toute l'équipe qui a permis cette émission. Stéphane Poitvin à la prise de son, Marie Groux à la réalisation. Attachée de production, Marie Ferdinand. Passez un très bon dimanche sur France Musique et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.